Bonsoir mes frères et sœurs. Ouvrons sans tarder le Saint-Livre. Vous vous rappelez comment termine le Notre Père? Ce qu'on appelle la doxologie. Vous vous rappelez comment il termine? Est-ce que quelqu'un pourrait me le dire? Comment? Non, ça commence comme ça. Matthieu 6, la fin du Notre Père termine avec cette parole. Matthieu 6, verset 13, la deuxième phrase. Matthieu 6, 13. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous le croyez ? Cette parole, elle revient très souvent dans la Bible, sous une forme ou sous une autre. Regardez dans le psaume 22. Cela revient très souvent. Dieu voulait qu'on le sache. Il enseigne ces choses tout le long de la parole de Dieu. J'ai pris le psaume 22, le verset 29. On va en lire deux ou trois quand même. Psaume 22, verset 29. « Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. » On peut aller dans le psaume 103, si vous voulez bien. Psaume 103, verset 19, on pourrait faire une longue, longue liste de ces textes. Dieu veut que nous le sachions, qu'il règne au siècle des siècles. Psaume 103, verset 19, c'est très important, frères et sœurs. « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Vous vous rappelez ce que Jésus a dit lorsqu'il a invité les hommes? Il a dit « Venez à moi et vous trouverez du repos, recevez mes instructions et vous trouverez du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » On pourrait commencer toutes les prédications par cette parole « Recevez mes instructions et vous trouverez du repos. » Ça, c'est une pensée que nous devons avoir, pas dans la tête, dans le cœur. Dieu règne. Il a toujours régné et il règnera éternellement. De notre côté, il y a des commandements comme celui-ci que nous allons lire dans Jacques au chapitre 1er, au verset 2. Rien que le verset 2. La suite est très intéressante, mais on va lire que la partie qui nous intéresse ce soir. Jacques chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce qui nous est demandé? Les choses que l'on doit savoir, c'est bien, mais il faut également connaître ce que Dieu nous demande. Car beaucoup de chrétiens peuvent citer des promesses, et c'est bien, surtout si on a le cœur. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce que Dieu nous demande. Regardez ce que Dieu demande aux frères et aux sœurs. Jacques 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Voilà quelque chose que Dieu demande. Vous l'avez déjà lu ce verset? Vous l'avez entendu souvent ici? Ouais. Regardez comme un sujet de joie complète. Alors de notre côté, vous retrouverez souvent cette expression, regardez dans... On est dans Philémon, juste avant Philémon. Je lisais ce matin plein de textes, il y en a une vingtaine comme ça dans le Nouveau Testament. Philémon chapitre 1, Paul est prisonnier, regardez ce qu'il fait. C'est lié à la prière, mais regardez bien, notez ces textes, notez-les. Parce que vous pourrez, dans vos cultes personnels, aller plus loin dans cette expérience que nous allons partager ce soir. Donc Paul écrit à Philémon, il est en prison. Regardez ce qu'il fait. C'est mélangé à la prière. Philémon, chapitre 1, verset 4. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Dans la prière, il vit dans l'action de grâce. Il y a le verset qu'on connaît le plus, c'est peut-être 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17 et 18. On voit qu'il y a ce mélange entre la prière, prier c'est demander, et puis il y a cette action de grâce qui revient sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, voyez, prier sans cesse. Ça, c'est une chose de prier, on prie pour des besoins, on prie pour des situations, parce qu'il y a tant et tant de choses à faire. Et de notre côté, il y a cet autre commandement, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Un peu encore en arrière, dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 20. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ces choses. d'un côté du règne, d'un autre il nous demande certaines choses, Éphésiens chapitre 5, verset 20, on ne va pas le faire, mais vous pouvez le faire. Vous arrêtez chaque fois où Paul rend grâce, où il demande de rendre grâce, où il le fait, Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez dit merci aujourd'hui au Seigneur ? Vous lui avez dit merci ? Combien de fois ? Juste à table pour le repas ? Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va un peu plus loin, parce que souvent on cite ces versets, Philippiens, chapitre 1, vous voyez, verset 3. On ne va pas le faire parce que ça serait, on ferait que ça ce soir. Philippiens chapitre 1, verset 3, vous voyez, là aussi il est en prison. « Je rends grâce », Philippiens 1, verset 3. Je pense à quoi ? Colossiens, vous voyez, Philippiens, Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 3. « Nous rendons grâce à Dieu ». Vous voyez, verset 12, « Rendez grâce au Père ». Pourquoi Dieu nous demande tout le temps de lui rendre grâce ? Pourquoi c'est écrit autant de fois, rendez continuellement grâce, rendez grâce, je rends grâce au Père, je rends continuellement grâce, quand je prie pour toi, je lui rends grâce. C'est quelque chose que Dieu demande. Pourquoi ? Parce que quand on rend grâce à Dieu, c'est un signe de victoire. C'est la preuve qu'on lui fait confiance. Beaucoup de gens vont à l'église et prient, mais ne lui font pas confiance. Ils prient, ils récitent des prières. Ils aimeraient que leurs prières soient entendues. Mais comme ils ne connaissent pas la pensée de Dieu, ils n'ont pas appris à lui rendre grâce. Est-ce que vous rendez grâce à Dieu ? C'est important parce que c'est révélateur d'un état d'esprit. Ça vient des chrétiens, vous le savez. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous croyez que ça glorifie Dieu, ça ? Des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre. Mais quand quelqu'un rend grâce, c'est un état d'esprit, c'est une attitude de cœur. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de dire merci. Quelqu'un qui rend grâce, il prouve par là qu'il dépend de Dieu. C'est une preuve. Qu'est-ce que nous croyons ? Eh bien, nous croyons que Dieu dirige tout. Je te rends grâce, Seigneur, je crois que tu règnes au siècle des siècles. Si nous voulons être de vrais chrétiens, c'est quoi un vrai chrétien ? Un pentecôtiste ? Un évangélique ? Un baptiste, c'est quoi un vrai chrétien ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a dans son cœur beaucoup de reconnaissance, croyez-moi. Et il vaut mieux entendre des merci que des donne, donne. Vous connaissez le proverbe 30-15, la sangsue à deux filles, donne, donne. Il y a des chrétiens, ils sont toujours dans le fait, donne, donne, Seigneur, donne-moi. Mais ils ne sont pas dans les actions de grâce. Moi, je vous encourage à vivre dans les actions de grâce. Un chrétien qui n'est pas satisfait est un chrétien qui passe à côté de quelque chose. Je ne sais pas si, comment vous vivez votre vie en dehors de l'église. Lorsque vous commencez vos journées, comment vous les commencez ? En disant merci au Seigneur ? Vous êtes heureux si vous les commencez en disant merci au Seigneur. Un chrétien qui ne rend pas grâce, c'est sûr. C'est un chrétien qui n'a pas compris certaines choses. C'est un chrétien qui vit dans l'ignorance. On va le voir tout à l'heure. Combien de fois Dieu dit, mais tu ne l'as pas appris ? Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ne le sais-tu pas ? On voit bien qu'il y a des choses que nous devrions apprendre. Paul, quand il reprend les Corinthiens, il dit, mais ce qu'il y a de grave, c'est que lorsque vous vous assemblez pas pour devenir meilleur, mais vous vous assemblez pour devenir pire. C'est terrible ça, se rassembler avec des gens pour empirer. Alors que lorsqu'on rend grâce à Dieu, c'est clair, les gens qui arrivent avec un esprit de reconnaissance, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Paul avait compris. Vous vous rendez compte, il est en prison. À la fin, vous voyez, il dit, souvenez-vous de mes liens. Oui, quatre mots pour dire, bon, je vous tiens, vous rappelez que je suis quand même en prison. Mais il n'en parle pas. Il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. Et regardez bien les épîtres en prison. Il rend continuellement grâce. Et si j'ai pris le psaume 103, où il est dit que Dieu règne, c'est le psaume où il est dit de compter les bienfaits de Dieu. Est-ce que vous les voyez, les bienfaits de Dieu, dans votre vie ? Est-ce que vous les voyez ou est-ce que vous ne les voyez pas ? Ou est-ce que vous voyez que ce qui ne va pas ? Un chrétien qui n'écoute pas, on a chanté « Parle-moi ». Vous l'avez chanté le quatrième cantique ? « Parle-moi, montre-moi, quelle est ta volonté ?» Un chrétien qui n'écoute pas, c'est un chrétien qui ne peut pas recevoir. Ce que je vous dis ce soir, c'est simple, mais si nous savions vraiment combien c'est important, Beaucoup de chrétiens, ils vont à l'église, ils entendent, oui, il faut rendre grâce, oui, considérer, tiens, on va le voir, considérer les diverses épreuves comme un sujet de joie complète. C'est facile à dire, considérer comme un sujet de joie complète toutes les épreuves. Nous, on a vite fait de se tromper, nous. Parce qu'on a vite fait de déraper, de se réjouir des épreuves des autres. Ce n'est pas ça qui est demandé. Est-ce que des fois, on ne s'est pas fait avoir? Dites-moi la vérité. Est-ce que des fois, on n'a pas regardé l'épreuve qu'un frère a traversée en disant « Mais c'est peut-être ce qu'il a besoin. » Ça vous est jamais arrivé, vous deux? Ça vous est jamais arrivé? Non? Si, on s'est tous fait avoir, on n'a pas été intelligent. Mais il ne nous est pas demandé de considérer les épreuves des autres. Il nous est demandé, là, nos épreuves. Parce qu'on ne sait pas pourquoi Dieu permet que tel frère traverse telle ou telle épreuve. Nous, on a une analyse tellement simpliste. On dit, tiens, il traverse ça. Peut-être c'est bien fait pour lui, peut-être. Mais vous savez, enfin, moi, je sais que quand je regarde mes épreuves, je sais que c'est vraiment des... C'était l'école de Dieu. C'était une bénédiction, les épreuves. Mais nous, on n'est pas capable de considérer les épreuves. Par contre, quand quelqu'un est dans l'épreuve, on devrait, qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Ayez en vous les compassions qui étaient en Jésus-Christ. Pleurez avec ceux qui pleurent. Voyez ? Oui, c'est quelqu'un dans l'épreuve. Et bon, ben, Seigneur, je ne sais pas pourquoi il traverse cette épreuve. Parce qu'on ne sait pas pourquoi telle ou telle personne peut traverser cette épreuve. Mais là, on ne parle pas des épreuves des autres. On parle de nos épreuves. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière les diverses épreuves? Ça veut dire toutes les épreuves, dans tous les domaines. Dans quel domaine on peut avoir des épreuves? Dans quel domaine? Le travail. Est-ce qu'on peut avoir des épreuves au travail? Est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec les collègues? Ben oui, travail. Est-ce qu'on peut avoir des épreuves dans la vie sociale? Ben oui, est-ce qu'on peut avoir des épreuves dans la santé, dans le corps? Ben oui, on peut avoir des épreuves. Dans le couple, est-ce qu'on peut avoir des épreuves? Est-ce que ça peut arriver d'avoir des couples? Il y a des gens qui sont mariés. Est-ce que ça peut arriver d'avoir des... Eh oui, ça peut arriver. Ça peut arriver avec les enfants. Ça peut... Dans l'église, tiens donc, est-ce qu'on peut avoir des épreuves dans l'église? Il y a des gens qui n'acceptent pas. Et pourtant, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais regardez les épîtres aux Corinthiens, vous allez voir les épreuves qui traversaient dans l'Église. Il peut y avoir avec les amis. Est-ce qu'on peut avoir des épreuves avec des amis? Est-ce que David a eu des problèmes avec des amis? Bien sûr qu'il a eu des épreuves avec des amis, dans tous les domaines. Et Dieu dit, considérez les diverses épreuves comme un sujet de joie complète. Alors se réjouir, ça ne veut pas dire je saute de joie quand je suis dans l'épreuve. Se réjouir, c'est une attitude de cœur. Je fais confiance à Dieu. Je traverse cette épreuve, j'ai appris des problèmes de santé. Je suis perturbé par ça. Le médecin m'a donné de mauvaises nouvelles par rapport à une radio que j'ai dû faire. Mais Seigneur, je sais que tu es au courant. Je sais que tu es au courant. Et on va voir justement plusieurs raisons pour lesquelles il faut se réjouir. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais on va le faire consciencieusement. Parce que c'est quand même une grande victoire. Imaginez-vous dans une église où tous les chrétiens rendraient continuellement grâce à Dieu. Imaginez, dans la semaine, tout le long de la journée, des gens qui soient remplis de reconnaissance. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça produirait dans une église ? Le premier texte qui nous intéresse, c'est dans la Lamentation de Jérémie. On va voir plusieurs textes qui nous montrent pourquoi on doit se réjouir. Parce que c'est bien de le dire, mais c'est bien aussi quand même de l'expliquer. Lamentation de Jérémie, c'est très sérieux, vous savez ce qu'on voit ce soir. Il ne faut pas que ça soit dans la tête. Parce que si je vous dis « rendez grâce », bon, je vais le faire, je vais dire « merci, merci », mécaniquement, ce n'est pas la peine, arrêtez. Mais si c'est dans votre cœur que vous comprenez que Dieu est au courant de tout. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Ça commence avec une question. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions dans la Bible. Et là, il est dit, qui dira? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ne vous plaignez pas du péché des autres. Ne tombez pas dans le piège. Que t'importent les autres? Toi, suis-moi. Dieu est un Dieu qui règne. Il règne sur tout. Qui dira? Qu'est-ce que vous direz, vous faites? Qu'est-ce que vous dites de ce qui se passe? Tiens, dans telle situation, on dit, mais il s'est passé ça. Est-ce que Dieu était au courant? Est-ce que Dieu a permis ça? Est-ce que Dieu l'a laissé faire? Il y a des choses qui nous dépassent vraiment. Mais les chrétiens, ils devraient croire quand même que Dieu règne surtout dans le ciel et sur la terre. Tout ce qui se passe, qui nous dépasse, tout ce qui se passe, qui nous fait peur parfois même, il l'autorise, il laisse faire. Il laisse faire. Dieu peut tout. Est-ce que Dieu pourrait empêcher tout le mal? Est-ce que Dieu pourrait empêcher le mal? Oui, Dieu pourrait empêcher le mal. Mais quand il permet quelque chose, il sait ce qu'il fait. La seule chose que nous dit ce texte, c'est que Dieu ne règne pas sur le péché. Si nous vivons dans le péché, il faut absolument le régler, cette affaire. Parce que là, Dieu ne règnera pas. Dieu ne règnera pas parce qu'on va chanter 50 fois « Règne à moi, règne à moi, règne à moi ». Non, dès que vous obéissez, Dieu règne. Vous connaissez l'histoire de Job? Vous connaissez cette histoire? Vous avez lu le livre de Job? Les 42 chapitres de Job? C'est un long livre. Moi, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Et c'est vrai que plus je le lisais, et plus ça soulevait de questions. Vous avez vu cet homme, tout ce qu'il a subi, et pourtant comment il était au départ? Comment il est décrit comment cet homme? Comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est Dieu qui parle de lui comme ça. Voyez. Et ses amis ne vont pas du tout l'analyser de la même manière. Ses amis. Voyez comme quoi on peut avoir des épreuves avec nos amis. C'était des amis, des vrais amis au départ, qui ont été bien le temps qu'ils se sont tus. Les 7 jours, ils se sont tus. C'est un homme qui a subi des choses. Il a perdu tous ses enfants. Il avait combien d'enfants? 10. Il a perdu tous ses biens. Je ne sais pas si vous réalisez ces biens qu'il avait. Ce n'était pas 3 ou 4 casseroles. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu la santé. C'est un drôle de livre, le livre de Job. Pourquoi Dieu a-t-il autorisé ça? Parce que c'est vrai que l'intention venait du diable. Vous rappelez comme il y a le diable là, a tout fait pour que cet homme traverse ses épreuves, mais l'autorisation, elle venait de qui? C'est Dieu qui a donné l'autorisation. Donc, Dieu savait ce qu'il faisait. Il sait toujours pourquoi il permet que telle épreuve nous atteigne, même si on est intègre. Là, vous en avez la preuve absolue. Moi, j'ai vu des commentaires où des gens cherchaient à trouver dans le cœur de Job un péché. Non, cet homme, il était intègre et droit. Et il a traversé une épreuve. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand vous voyez quelqu'un dans l'épreuve, priez pour lui. Il est dans l'épreuve, il traverse un moment difficile, avec ses amis, dans l'église, dans la santé, dans son couple, avec ses enfants. Ah, il a des ados rebelles. Ah ben, il avait qu'à bien les éduquer. Ne parle. C'est possible. Mais ce n'est pas la peine. Seigneur, fais-lui grâce. Qu'au travers de cette épreuve, eh bien, il expérimente la bonté du Seigneur. Dieu savait ce qui se passait. Dieu savait pourquoi il a permis cette épreuve. Il savait les conséquences que cela aurait. Il savait les conséquences que cela aurait sur l'histoire entière du monde, dans l'histoire de l'Église en entier, au siècle des siècles. Il le savait. Il le savait. Il n'y avait que lui qui le savait. Tout le monde s'est trompé dans l'histoire de Job. Tout le monde, même sa femme. Sa femme qui ne supporte, parce qu'il ne faut pas oublier, sa femme, elle a perdu. Nous, on voit le livre comme ça, mais imaginez-vous, le matin, vous vous levez, vous voyez dans le jardin 10 tomes toutes fraîches, là, de vos 10 enfants. Cette femme qui a tout perdu, elle dit à son mari, mais maudit Dieu, et meurt. Elle est désespérée, cette femme. Elle n'a rien compris à l'épreuve, c'était sa femme. Ses amis n'ont absolument rien compris. Le diable s'est trompé, tout le monde s'est trompé, sauf Dieu. Pourquoi? Parce qu'il règne au siècle des siècles. Oui, nous pouvons nous réjouir de toutes nos épreuves, parce que Dieu contrôle toutes choses. Il connaît tout. Même Jésus a dit, les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'était une plaisanterie? Est-ce que c'était une plaisanterie? Bien sûr que non. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Pour expliquer qu'il est au courant de tous les détails. Nous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Vous les voyez, il paraît qu'on en tombe 150 par jour, cheveux. Mais je veux dire, vous ne les voyez pas tomber, les cheveux. Mais je veux dire, Dieu, ça veut dire qu'il connaît tous les détails. Ce n'est pas une blague. C'est la vérité. Il est au courant de tout ce qui se passe et de tout ce que vous devrez traverser. Vous comprenez pourquoi les chrétiens doivent dire, Seigneur, merci, tu sais ce qui va m'arriver. Tu es au courant de tout. Quand vous priez, il y a des gens quand ils prient, tu vois, Seigneur, je tiens à te dire ça. Tu vois là, la femme que, je ne sais pas, tu ne dois pas la connaître. J'ai entendu ça, moi. Tu sais la femme à qui j'ai parlé de toi dans l'ascenseur qui avait la robe rouge. Ah, Seigneur, tu et ils me disent, mais il y a des gens, c'est comme si Dieu leur dit, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Quand on prie, c'est parce qu'il faut faire, il faut participer à l'exaucement de la prière. Mais Dieu, il est au courant. Il sait exactement. Il a un plan. Qui dira? Qu'est-ce que vous vous dites vraiment? Tiens, votre couple, vos enfants, le travail, les relations professionnelles. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que Dieu sait ou vous dites que Dieu ne sait pas? Qu'est-ce que vous dites? La deuxième raison pour laquelle Dieu fait certaines choses, c'est qu'il sait pourquoi il les fait. Il faut bien comprendre ça. Il sait toujours pourquoi il fait quelque chose. Il sait toujours pourquoi il permet quelque chose. Rien ne l'oblige à nous le dire. Il n'est pas obligé de nous le dire. Nous, on aimerait que Dieu nous dise tout. Non, vous n'aimeriez pas que Dieu vous dise, tiens là, tu vas te marier avec Albertine. Voilà. Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise tout? Nous, on aimerait qu'il nous semble qu'on aurait une foi plus grande si Dieu nous disait tout. Vous savez, même nous, les parents, ça m'est arrivé, moi, quand je préparais cette prédication, ce matin, je pensais à une fois où on allait arracher des dents à ma fille. Elle était petite. Il fallait lui arracher des dents parce que c'était des dents de lait qu'ils n'arrivaient pas à partir. Alors, elle me dit, papa, qu'est-ce qu'on va me faire? Et puis, j'ai dit, on va chez le dentiste. Voilà. Il va me faire mal, et bien on va chez le dentiste. C'est pas évident, nos enfants, quand ils sont petits. Voilà. Et nous, on ne veut pas dire certaines choses, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais bon, au-delà de cette histoire, mais enfin, nous, on l'a fait avec des enfants. On savait que certaines choses pouvaient être difficiles. On ne leur a pas dit. Mais rappelez l'histoire d'Abraham, lorsqu'il montait sur le mont Morijan, il marchait, ça faisait 3 jours, puis tout d'un coup, le fiston lui pose une question. « Papa, il y a le feu là pour le... » Il y a le feu, mais où est le sacrifice? Et Abraham, il a dit à son fils, je ne sais pas l'intonation qu'il a prise, mais il a dit, Dieu se pourvoira. Ce n'était pas facile, non? Est-ce que c'était facile de dire, mais le sacrifice, c'est toi? Dieu aime quand nous avons cette attitude devant toutes les situations. Seigneur, tu pourvoiras. Est-ce que ce soir, nous qui sommes venus, qui venons de chanter Seigneur, mais montre-moi quelle est ta volonté. Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Dieu l'a dit à qui? À l'apôtre Pierre. Dieu lui a dit, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Est-ce que vous acceptez que ce soir Dieu nous dise cette parole? Tu ne comprends pas. Maintenant. Mais plus tard, tu comprendras. Même si tous les gens autour de vous sont en train de vous enfermer, comme Job, comme les amis de Job. Ouais, si tu étais juste, parce que c'est très 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 poétique. Mais en français courant, si on le présente d'une façon actuelle, les amis de Job ont été ignobles avec lui. Oui. Ce que je ne comprends pas maintenant, je le comprendrai plus tard, je peux lui faire confiance. Il y a des raisons, Dieu sait, il y a des choses qu'on peut comprendre, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Vous voyez, même l'apôtre Pierre, pourtant il avait passé 3 ans avec lui, et bien il s'est entendu ça. Donc si l'apôtre Pierre l'a entendu, nous pouvons nous aussi accepter que Jésus nous dise, tu ne le comprends pas maintenant, mais ne t'inquiète pas, je suis ton père, je sais ce dont tu as besoin. Si Dieu nous dit qu'on n'a pas besoin de le savoir, on n'a pas besoin de le savoir. C'est vrai que nous, Seigneur, montre-moi, c'est vrai, hein, on le chante, hein, montre-moi, Seigneur, donne-moi un signe, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi dans la parole. Non. Par la foi, je marcherai. En comptant sur ses promesses. On le chante, mais c'est ça que le Seigneur, il attend. C'est vrai que nous, c'est pas toujours évident. Pourquoi j'ai perdu mon emploi? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Il y a des gens, quand ils perdent le travail, ils sont catastrophés. Catastrophés. Pourquoi j'ai perdu mon travail? Je me souviens de cette infirmière qui avait perdu le travail. Et Dieu l'avait vraiment conduit pour que plus tard elle soit missionnaire. Oui. Est-ce que c'était bien? Ben oui, elle disait, j'ai pas eu le même salaire, mais quelle bénédiction, quelle bénédiction. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est des mauvaises nouvelles, mais Dieu le sait. Quelle victoire, en tous les cas, quand le chrétien se réjouit, parce que le diable, lui, il attend quoi quand on a des mauvaises nouvelles? Qu'est-ce qu'il attend? Mais qu'on se plaigne. Il attend qu'on soit triste, que nous commencions à nous apitoyer, à nous plaindre, à gémir. Oui, je ne comprends pas, franchement, ah ben si j'avais su, etc., etc. Le diable, il attend que ça. Mais quand nous sommes éprouvés et que nous disons, Seigneur, j'accepte cette épreuve, je l'accepte. Se réjouir, ça veut dire merci. C'est ça que ça veut dire. Considérer comme un sujet de complète les diverses épreuves, ça veut dire, ben Seigneur, merci. Merci. Regardez dans Ésaïe 37. C'est ce que je vous disais en introduction. C'est quand même des... On le voit souvent, c'est une question qui revient souvent. Et je comprends pourquoi elle revient souvent. Ésaïe 37, verset 26. Regardez. Ce sont des questions qu'il faut prendre avec beaucoup de considération. C'est sérieux. Vous savez, la marche avec Dieu, c'est une bénédiction, mais c'est comme ça qu'on comprend. Comment comprendre un verset ? Il y a des gens, des fois, ouais, c'est facile pour vous de dire ça. Non, c'est pas facile. C'est la parole, c'est Dieu qui le dit. Ésaïe 37, verset 26. N'as-tu pas appris? Ça, c'est le vrai problème. C'est qu'en vérité, on ne veut pas apprendre. On veut la bénédiction, mais on ne veut pas apprendre. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Regardez la page, mais regardez Ésaïe 40. Dans ce texte où justement Dieu dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Regardez au verset 28. Il y a le verset 28, il y a un autre verset aussi. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Vous voyez, c'est un problème ça. Verset 21, si je me trompe, oui. Vous voyez, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître? En plus, le Seigneur pose trois questions. Trois questions posées différemment qui veulent dire exactement la même chose. Bon, il y a ça, Dieu il sait le faire. Nous dire les choses de trois manières différentes pour que l'on puisse les comprendre plus facilement. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? On le voit. N'avez-vous jamais réfléchi? Mes frères et sœurs, n'avons-nous pas compris que Dieu, il sait ce qu'il fait? Il prépare les choses de loin? Il ne subit pas les événements? Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu est tout en train de réparer le mal que le diable fait. Dieu ne subit pas les événements, il les commande. Et une des raisons qui fait qu'on devrait se réjouir, c'est de dire, mais Seigneur, tu contrôles tout dans les cieux et sur la terre, même si je ne comprends pas, même si moi je suis obsédé par les choses. D'ailleurs, regardez au chapitre 22, c'est très bien expliqué au chapitre 22 d'Ésaïe. Au chapitre 22 d'Ésaïe, au verset 11, Dieu explique cela. Ésaïe 22, voyez la fin du verset 11, vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Regardez la suite. Ésaïe 22, vers 11b, on appelle ça. Mais vous, regardez bien, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que il y a des choses... Nous, on regarde les choses, c'est ça que ça veut dire. Dieu dit, mais vous regardez les choses, vous ne regardez pas celui qui contrôle les choses. Nous, on est agacés par les choses. Cette chose, elle me barre le chemin. Cette chose, elle m'empêche d'avancer. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Nous, on est là, on est fatigués. Tiens, pourquoi mes enfants sont difficiles? Pourquoi mon travail est compliqué? Pourquoi je n'ai pas eu l'avancement? Pourquoi je ne suis pas rentré dans telle nouvelle situation que j'attends? Mes frères et sœurs, ne regardez pas les choses. Regardez celui qui contrôle toutes les choses. dans les cieux et sur la terre. Ne vous plaignez pas. Oh, d'ailleurs, regardez bien. Vous êtes plusieurs, certainement, à pouvoir témoigner ce soir que les années ont passé et vous avez dit, mais j'ai eu tort de me plaindre. Mais qu'est-ce que j'ai eu tort? J'ai appris ça dans telle épreuve. J'avais besoin de traverser cette épreuve. Oui ou non? J'avais besoin de ça. Et moi, mais aujourd'hui, c'est pareil. Ne dites pas, oh, j'accepte pas, j'en ai marre de mon célibat, ça fait trop longtemps. Mais plutôt que de regarder le célibat, regardez le Dieu qui bénit les foyers. Le Dieu qui est capable de vous donner un conjoint. Parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt aussi. Est-ce que ça peut arriver de ne pas être prêt? Soyons honnêtes. Est-ce que ça peut arriver de ne pas être prêt? C'est une drôle de question, ça. Les jeunes, je sais, il y a des sourires, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais vous croyez que Dieu, il sait le conjoint qu'il vous faut? Est-ce que franchement Dieu le sait? Vous êtes content? Et ceux qui sont mariés, vous êtes content du conjoint que vous avez? Vous êtes content? Dieu, il sait. Vous ne voyez pas celui qui a préparé les choses, vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Nous, on regarde, je le répète, les choses, on s'irrite, on s'énerve. Et le jour où les chrétiens seront, comment dirais-je, conscients de dire merci en toutes choses, qu'ils auront cette conviction, Seigneur, tu contrôles tout, tu sais tout, tu vois tout, tous les détails, tu contrôles tout. Et bien ce jour-là, mes frères et sœurs, nous serons dans la victoire, parce qu'on chante des fois victoire au Seigneur de la vie. Mais mes frères et sœurs, comment être dans la victoire si nous ne savons pas dire merci en toutes choses? Regardez, je vous rappelle, parce que quand même, moi ça m'encourage de voir l'apôtre Paul, comment il est en prison. Il est en prison, vous avez vu les lettres qu'il a écrites, c'est tellement bien que c'était inspiré par le Saint-Esprit, et c'est dans le canon des Écritures, et ça fait 20 siècles que les lettres de l'apôtre Paul bénissent tous les chrétiens du monde. Il est en prison. Les prisons, ce n'était pas les prisons d'aujourd'hui. Je peux vous... Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Bien souvent, en plus, les épreuves ont dégénéré parce que nous n'avons pas remercié Dieu. Combien de chrétiens ont rétrogradé à cause des épreuves? Sérieusement. Combien de chrétiens ont rétrogradé? Parce qu'ils n'ont pas accepté les épreuves. Ils ont commencé à dire, oui, c'est pas vrai, ça ne concourt pas au bien, c'est pas vrai, c'est des histoires. Oui, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je voudrais un autre verset dans le prophète Amos, parce que c'est quand même un verset important qui nous fait mieux comprendre les choses. Regardez, Amos chapitre 3, versets 6 et 7. Regardez bien ce verset, c'est un verset, notez-le, parce que à la suite de tous ces versets, ça va nous aider, parce que moi aussi j'ai besoin d'être aidé là-dedans. Amos 3, verset... Alors, c'est pas tout à fait, mais on va lire le verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Alors, vous y êtes? Amos 3, verset 7. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alors, l'auteur, ça ne veut pas dire que c'est lui qui le fait, c'est qu'il peut le permettre. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Les prophètes, regardez bien ce verset. Dieu peut, s'il le veut, nous révéler ses secrets. À qui? À qui? Alors à ses serviteurs, les prophètes, ça veut dire quoi? Ça veut dire à ceux qui vivent dans la communion. Ça ne veut pas dire que dans le Nouveau Testament, vous comprenez bien. Les prophètes, ce sont les personnes qui vivent dans une véritable communion. Alors le secret, ce n'est pas l'explication de tout ce qui va se passer. C'est une explication spirituelle. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Je n'ai pas besoin, par exemple, de savoir quand est-ce que l'épreuve va finir. Si vous êtes dans l'épreuve et Dieu vous dit, bon, le 30 juin, l'épreuve est finie. C'est plus une épreuve. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que l'épreuve va finir. Vous savez qu'elle va finir. Ça, c'est sûr. Mais vous n'êtes pas obligé de savoir quand. Bon, le livre de Job, c'est un livre qui m'a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé, j'en suis arrivé même à compter toutes les questions qu'il y avait dedans. Pendant des mois et pendant des mois, Dieu, il est dans l'épreuve, c'est que ses amis l'oppriment, le fatiguent, et Dieu, lui, il se tait. Puis un jour, Dieu parle. Dieu parle, il va se mettre à poser des questions, je crois qu'il y en a 78 ou 79. Dieu va lui poser 78 ou 79 questions. Il est dans l'épreuve, il a perdu ses enfants et Dieu va commencer à lui parler des hippopotames ou des biches. ou des ânes sauvages, ou de l'autruche, ou de l'épervier. Pourquoi la biche m'ébade là-bas au fond du jardin? Et moi, je trouve que c'était un petit peu décalé par rapport à l'épreuve. Oui ou non? Comment les chèvres sauvages font leurs petits? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Sérieusement. Moi, quand j'ai lu ce livre, au bout de la deuxième ou troisième fois, j'ai dit, mais il vient de perdre ses 10 enfants. Ses amis lui mettent une tête comme ça depuis des mois. Et quand Dieu intervient, il lui pose des questions sur l'épervier, sur l'autruche. Et sur les lois du ciel, et comment Dieu a constitué les Pléiades de l'Orient, etc., etc. Moi, je vous avoue que je me disais, mais quand même, c'est quand même bizarre ce livre. Non, vous ne trouvez pas? Mais moi, ça m'a fait drôle. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous assure, j'ai passé des mois, je me suis mis une tête comme ça. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner? Vous savez, il y a des choses qui se passent dans le domaine du visible. La biche qui m'ébat dans la forêt à côté, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qu'on voit. Ce que Job vivait, c'était une expérience spirituelle dans l'invisible. C'est des choses qu'on ne voit pas. Alors, si Job n'était pas capable de comprendre comment une âne, une ânesse, fait du lait, par exemple, ou pourquoi une autruche met la tête dans le sable lorsque elle a peur. Si nous, les hommes, ne sommes pas capables de comprendre les choses dans le domaine du visible, comment pourrons-nous comprendre les choses dans le domaine de l'invisible? C'est ça que ça veut dire. Je le résume, bien sûr. Et Job, il a compris, regardez avec moi. On va lire quand même, n'oublions pas que c'est un homme qui est taxé d'un homme intègre, droit. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous n'aimeriez pas que Dieu parle de vous comme ça? Vous aimeriez que Dieu parle de vous comme ça? Et regardez, pourtant, à la fin du livre, donc, il y a 2 chapitres de questions. Hein? Vous savez les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Vous vous rendez compte? Moi, depuis, ça m'a donné envie de faire des études sur l'astronomie. Et c'est vrai que c'est impressionnant, vraiment. Impressionnant. Impressionnant. Quand on étudie. Mais regardez, regardez quand même la conclusion. Job 42, versets 1 et 2. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Bon, ça fait des mois que ça dure, hein. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quelle est la folie? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Vous voyez, il y a un dialogue entre Dieu et Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et au verset 39, chapitre 39, verset 37, voyez, voici, Job 36, Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. » Ça, c'est une bonne chose, vous voyez. « J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Job était un homme, on va le regarder au début, pour vous dire quand même, je ne sais pas si vous réalisez, Job 1, verset 8, vous voyez ce qu'on vient de lire. Et regardez comment Dieu parle de lui. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et ce n'est pas la première fois. Regardez au chapitre 3, 2 au verset 3. « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Mais regardez après cette épreuve, comment il a avancé. « Je reconnais que tu peux tout. » Le secret de la victoire, c'est ça le secret. Dieu peut tout. Il ne me donnera pas toutes les explications. Mais je sais une chose, c'est qu'il contrôle tout. Que ce qui m'arrive, il le permet. Vous croyez que Dieu joue avec votre santé si vous êtes malade? Vous croyez que le Seigneur il s'amuse avec vos nerfs, avec je ne sais pas quoi, avec votre vie? Vous croyez que Dieu joue avec ses enfants? Si vous avez des enfants, moi je ne joue pas avec mes enfants. Enfin, je ne joue pas avec leur santé. C'est sérieux. Les chrétiens, ils doivent faire confiance, mes frères et sœurs. Dieu règne au siècle des siècles. Un chrétien, il le sait. Un chrétien, il fait confiance. Le secret des chrétiens, c'est l'espérance glorieuse, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas nous plaindre. Un chrétien, il doit rendre grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Vous l'avez chanté de tout votre cœur tout à l'heure. Parle-moi. Montre-moi quelle est ta volonté. Je ne sais pas si on ne serait pas vite près, proche d'un réveil. Vous savez, on prie pour le réveil. Mais je me demande bien si on ne serait pas vite dans un réveil, si on rendait grâce vraiment tout le temps. Les chrétiens, ils se plaignent tout le temps. Et ils vous parlent d'être baptisés. Et ce sont ces chrétiens-là qui vous parlent d'être baptisés du Saint-Esprit. Oui. Moi, j'ai de grosses réserves. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Rendez grâce en toutes choses. Moi, je l'ai vécu, vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois. Mais quand j'ai fait l'AVC, j'avais compris ça. Et que j'entendais les docteurs qui disaient, il nous glisse entre les doigts. Moi, je peux vous dire, et Dieu m'est témoin, je peux vous dire que je n'exagère pas. Je rendais grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu me prends, c'est bien. Tu ne me prends pas, c'est bien. Tout me va bien. Que son nom soit béni. Vous savez, toutes les épreuves, il les contrôle. Que son nom soit béni. On termine en lui rendant grâce. Ça vous convient? Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on termine en nous plaignant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, moi aussi je veux vivre ça, je reconnais que tu peux tout? Alléluia. Alléluia. Vous êtes d'accord pour qu'on le remercie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord pour rendre grâce, pour lui rendre grâce? Amen. Notre Père, notre Dieu, nous le croyons que tu règnes au siècle des siècles sur toutes choses. Que tu ne joues pas avec notre santé, que tu ne joues pas avec nos nerfs. Tu nous aimes parce que nous sommes tes enfants. Tu sais ce que nous avons besoin de traverser et nous te remercions pour ta protection. Nous aussi, Seigneur, malgré notre ignorance, nous reconnaissons que tu peux tout. Tu peux agir dans toutes les situations qui nous préoccupent, dans la santé, dans le foyer, auprès des amis, auprès de nos enfants, auprès de nos ados. Tu règnes et nous croyons que tu es le Dieu qui nous permet de te voir. Nous ne voulons pas regarder les choses, nous voulons regarder le Dieu qui maîtrise toutes les choses. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas glorifié ton nom. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas fait des progrès. Alors que tu nous avais envoyé ces épreuves, ou tu avais permis ces épreuves, autorisé ces épreuves pour que justement nous en fassions. Seigneur, nous voulons sortir, non pas comme les Corinthiens qui s'assemblaient pour devenir pires, nous voulons sortir de ce lien en devenant meilleur. Apprends-nous à te rendre grâce et à croire que tu règnes dans la vie des hommes qui marchent avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.